Bonsoir, c'est un nouveau temps du débat qui s'ouvre sur France Culture jusqu'à 19h avec ce soir une question qui nous emmène en mer mais loin, très loin du Farniente. Qui doit sauver les migrants en Méditerranée ? La photo est glaçante et c'est la raison pour laquelle elle a fait le tour des réseaux sociaux à la fin du mois de juillet. Une photo aérienne aux allures presque abstraites, un détail blanc sur un fond bleu. Le bleu très foncé est celui de la mer Méditerranée qui remplit le cadre de l'image. Quant au détail blanc, on ne saisit pas tout de suite. Il faut plisser les yeux pour comprendre qu'il s'agit d'un canot pneumatique à moitié submergé qui continue de dériver en surface. Et il faut les plisser encore un peu plus pour réaliser qu'à sa droite flottent les jambes d'un homme, plus pâle encore que le blanc du canot. L'homme est mort, accroché à l'embarcation qui le maintient à flot. Cette photo, elle a été prise le 29 juin par l'avion humanitaire Sea Bird qui survole le large des côtes libyennes afin de repérer les bateaux de migrants en détresse. L'équipage de l'avion a signalé immédiatement la présence de l'embarcation naufragée aux gardes-côtes libyens, italiens et maltais. Mais deux semaines plus tard, eh bien le corps est toujours là. Personne n'est intervenu pour le sortir des eaux. Car depuis le 7 juillet dernier et l'immobilisation de l'Ocean Viking en Sicile, aucun navire humanitaire ne parcourt plus les eaux méditerranéennes pour des opérations de sauvetage des migrants. Et les États côtiers, Italie, Libye, Malte, Tunisie, se renvoient la balle des opérations et des responsabilités. Ainsi, 295 migrants sont officiellement morts en Méditerranée centrale depuis le début de l'année 2020 et le nombre de départs a bondi. Près de 25 000 personnes ont quitté les côtes libyennes et tunisiennes entre janvier et juillet, contre 9 400 sur la même période l'année dernière. Alors qui doit sauver les migrants qui tentent la traversée ? Les États et l'Europe sont-ils en train de déroger à leurs obligations ? Pourquoi un tel bras de fer avec les ONG ? Comment coordonner l'action des deux côtés de la Méditerranée ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos quatre invités ce soir, dont un face à moi en studio, Michael Neumann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études au CRASH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Vous êtes engagé depuis 1999 auprès de Médecins Sans Frontières, l'une des ONG présentes en Méditerranée. Au téléphone, nous recevons Camille Schmoll. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, spécialiste des migrations dans l'espace euro-méditerranéen. Votre prochain ouvrage, Les damnés de la mer, damnés EES, s'intéresse aux migrations féminines et paraîtra en novembre aux éditions de La Découverte. Également avec nous, Fabienne Keller. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée européenne, membre du groupe centriste Renew Europe, renouveler l'Europe en français. Vous êtes impliquée dans l'Union pour la Méditerranée et vous travaillez sur le futur pacte européen sur la migration. Et puis pour finir, Patrick Chaumette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Nantes, spécialiste de droit maritime et membre du Conseil supérieur des gens de mer. Vous saurez donc nous éclairer sur ce que dit le droit de ces sauvetages.
Si, c'est notre rôle. Moi, je considère que c'est mon rôle qu'il n'y ait pas de mort en mer. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est horrible de croiser des cadavres. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est bouleversant de voir ces gens, quand on les recueille, et comment ils sont fatigués et contents, comment ils sont contents, ils se mettent à sautiller, comment ils sautent sur la nourriture qu'on leur donne. Ça nous fait la chair de poule, c'est très très bouleversant.
C'est un extrait de la série documentaire « La bouteille à la mer » de Martine Abba pour Les Pieds sur Terre sur France Culture. Diffusée il y a presque 5 ans, en octobre 2015, la voix que vous avez entendue est celle d'un pêcheur tunisien de la ville de Zarzis qui porte secours spontanément aux embarcations de migrants et qui affirme qu'en tant que pêcheur, en tant qu'utilisateur de la mer, c'est aussi son rôle de les sauver. Alors Patrick Chaumette, vous êtes professeur émérite de droit. Le sauvetage des vies humaines en mer, c'est un principe essentiel. Essentiel du droit maritime, qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Est-ce que l'absence de navires de sauvetage en Méditerranée depuis début juillet est donc contraire au droit ?
Alors là, vous posez deux questions. Il y a la mer au large, qui relève essentiellement du droit international, et chaque navire qui est en mer doit participer aux obligations de sauvetage et à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Navires marchands, navires militaires, navires de plaisance, navires de pêche, etc. C'est prévu par les conventions des Nations Unies sur le droit de la mer, la convention SOLAS de l'Organisation Maritime Internationale. Et puis après, du large, on se rapproche évidemment vers les côtes. On arrive dans la mer territoriale des États côtiers et ensuite on va arriver au port. Et là, on sort du droit international, encore qu'il a sa place, avec la Convention sur le droit d'asile, par exemple. Mais évidemment, les États côtiers ont leur souveraineté, peuvent prendre des décisions. En ce moment, la pandémie complique évidemment considérablement les choses. Et là, on rentre non seulement, on pourrait dire, dans le droit terrestre, mais évidemment dans le droit de l'immigration et dans le droit d'asile. Et il va falloir coordonner le droit de la mer et, si on peut dire, le droit de la terre. D'où après la question de l'ouverture ou de la fermeture des ports italiens qu'on a bien connus et la possibilité de débarquer en lieu sûr les personnes que l'on a récupérées en mer. Et donc toute la question, qu'est-ce que c'est qu'un port sûr, le plus proche, un peu plus loin, etc., etc.
Alors on aura l'occasion de revenir sur cette notion de lieu sûr, mais d'abord Camille Schmoll, vous qui suivez en tant que géographe les parcours de migration en Méditerranée, comment est-ce que l'organisation des opérations de sauvetage a évolué ces dernières années? On sait qu'en 2014 l'Italie avait lancé une opération Mare Nostrum, qu'en 2016 il y avait jusqu'à une dizaine de bateaux d'ONG pendant l'été qui naviguait sur la mer, et puis cet été, plus rien. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Alors, oui, vous faites bien de rappeler l'opération Mare Nostrum, parce que on parle de 2014, et maintenant, ça semble être tellement loin du point de vue des politiques qui sont appliquées aujourd'hui en Méditerranée. Effectivement, on est passé, pour reprendre ce que dit la chercheuse Marta Esperti, on est passé, en fait, d'interventions humanitaires organisées par les États, avec un taux stage en mer qui était organisé et géré par les États, à une intervention des ONG. Donc à partir de la fin de Mare Nostrum, en fait, hein, avec l'intervention de Frontex de façon beaucoup plus importante à partir de 2015 en Méditerranée, eh bien les ONG ont pris le relais des États, hein, devant en fait le repli des États, hein, et le fait qu'on ait complètement découragé l'Italie d'intervenir en Méditerranée. Et donc les ONG sont arrivées pour sauver des personnes qui n'étaient plus prises en charge. Et depuis ces années-là, depuis 2015, ce qu'on observe en fait, c'est que il y a une entreprise très forte de dissuasion, voire de harcèlement parfois, voire de criminalisation de ces ONG, de façon à les décourager d'intervenir. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le Covid, la crise sanitaire du Covid a été finalement dans la continuité de ce qui s'est passé avant. Hein. On se rappelle de l'errance du navire des SOS Méditerranée en juin 2018, du fait avec 600 personnes à son bord, plus de 600 personnes du fait de la fermeture des ports italiens. Depuis, on ne cesse en fait d'empêcher ces navires d'accoster et de mettre les passagers ou les personnes qui sont dans des situations d'urgence, souvent vitales, en port sûr. Et donc ce dernier épisode, c'est une forme d'intensification en fait de ces opérations de découragement des ONG. Donc de ce point de vue-là, on est dans une continuité.
Michael Neumann, où en est le bateau de Médecins Sans Frontières qui doit repartir a priori d'Espagne pour aller au secours des personnes en détresse?
Alors précisément, c'est un bateau d'une organisation allemande, Sea-Watch.
Sea-Watch, tout à fait.
À bord duquel une équipe médicale de Médecins Sans Frontières embarque pour assurer le secours médical aux migrants qui seront secourus. Ce bateau baptisé Sea-Watch 4 devrait appareiller le week-end prochain et rejoindre la zone de sauvetage. Vous avez précisé qu'il n'y avait plus aucun navire de sauvetage des ONG depuis la fin du mois de juillet, puisque les quatre bateaux qui étaient encore en opération au printemps ont été systématiquement retenus au port par les autorités italiennes, laissant les migrants à la merci des gardes-côtes libyens, qui restent aujourd'hui les seuls opérateurs de secours, dans la mesure où, et je rajouterai juste quelque chose à ce que mes deux précédents interlocuteurs ont dit, que ce sont également les navires commerciaux qui ont été découragés à faire du secours en mer. Les ONG ne se sont pas entièrement substituées aux États. Les ONG n'ont jamais secouru la majorité des migrants en Méditerranée en 2015 ou les années suivantes. Les États ont toujours, par les gardes-côtes, assuré une fonction de sauvetage importante. Et puis, les navires commerciaux. Et ce qu'on a vu, c'est que progressivement, c'est l'intégralité de ce dispositif de sauvetage qui a été découragé au profit d'un encouragement des gardes-côtes libyens, dont la seule mission n'est pas réellement de sauver les gens, mais de les intercepter et de les ramener sur les côtes libyennes, côtes libyennes dont on sait très bien, évidemment, qu'elles ne sont, enfin, l'insécurité qu'elles génèrent pour ces gens.
Fabienne Keller, vous êtes députée européenne. Est-ce que vous souscrivez à cette vision? Est-ce que l'Europe décourage l'action des ONG, des navires privés, les actions de sauvetage au profit d'une action plus coercitive de la part des gardes-côtes libyens?
Alors, ce n'est pas du tout une stratégie volontaire de l'Europe. C'est le résultat, malheureusement, des États membres, de l'action des États membres, et notamment de l'Italie, qu'on nomme État de première entrée, c'est-à-dire qui est très concernée hein, par l'arrivée des réfugiés par les bateaux. Et aujourd'hui, l'Italie est trop isolée dans la prise en charge. Alors, hier, hein, notamment en 2017-18, c'était le fait du gouvernement, hein, Salvini qui voulait donner des signaux politiques. Aujourd'hui, la question est la prise en main de manière volontaire par l'Union européenne d'une compétence et épauler les États membres, l'Italie et Lampedusa en particulier, Malte, mais aussi sur le versant oriental, la Grèce. Donc nous sommes en début de discussion hein, d'une nouvelle approche sur l'asile et la migration, conscients que nous sommes que voilà la situation est absolument dramatique et tous ces morts en mer, mais aussi toutes les personnes maltraitées tout au long de leur parcours. C'est une situation totalement inacceptable et qu'on ne peut pas laisser en l'état. D'où l'idée que l'Union européenne prenne en charge, éventuellement en direct, pas seulement en finançant des ONG, mais aussi par une prise en charge en direct, les sauvetages en mer. On voit d'ailleurs que ce que certains croyaient, c'est-à-dire que c'est les sauvetages qui pouvaient encourager la migration, c'est pas vrai du tout, puis il y a maintenant même plus, vous rappeliez les chiffres en introduction, alors qu'il n'y a pas de navire en capacité de les sauver et que les embarcations semblent être de plus en plus petites pour essayer d'échapper aux différents contrôles côtiers. Donc nous défendons Arinou, mais c'est aussi la vision de la coalition centrale au Parlement européen, une vision plus responsable, hein, où l'Union européenne prend en main ce sujet sur le versant sauvetage en mer, mais aussi sur l'aspect discussion avec les États d'origine ou l'aspect accueil, parce que si ces bateaux accostent, il faut que les personnes puissent être accueillies, qu'on puisse prendre en compte leur situation et répartir, et ça c'est le sujet politiquement délicat, et répartir dans un mécanisme de solidarité leur accueil. On ne peut pas laisser les pays côtiers prendre en charge l'ensemble des milliers de migrants concernés.
Michael Neumann, médecin France en frontière, je vous vois réagir.
Non, parce que Madame Keller dit quelque chose d'assez juste, plusieurs choses assez justes. La réalité qu'on observe aujourd'hui apporte un démenti absolu et formel à la théorie de l'appel d'air, théorie qui fait passer notamment les organisations qui font du secours en mer, qui font d'elles des complices des passeurs. On voit que précisément au moment où il n'y a plus de bateaux de sauvetage, que les dispositifs de sauvetage privés ou publics ont été entièrement annihilés, eh bien les départs n'ont que rarement été aussi nombreux. C'est un bond de quasi 300% depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière en Italie.
Quelles en sont les raisons? Est-ce que la crise sanitaire est responsable de ce nouveau bond?
Non, je crois que la crise sanitaire a pas grand-chose à voir avec ça. L'évolution des départs, elle est due à tout un tas de facteurs et il est difficile d'établir des facteurs de causalité très clairs. Ce qu'on voit en Libye aujourd'hui, c'est un pays dans les abîmes, un pays qui va mal, un pays confronté à une situation sécuritaire terrifiante pour les Libyens d'abord et pour les migrants ensuite, qui sont plusieurs fois victimes du conflit libyen, d'abord parce que, ça on le sait bien avant que le conflit se détériore, la situation des migrants en Libye est terrifiante. C'est un pays pour lequel beaucoup de ces migrants souhaitent fuir purement et simplement et chercher refuge ailleurs. Et puis, la situation sécuritaire fait que la difficulté pour eux de trouver du travail, de subsister, est encore plus difficile, rendant, je dirais, l'appel de la Méditerranée encore plus important. Donc voilà ce qui peut-être conjoncturellement expliquer cette augmentation. Ce que je voulais juste rajouter aussi, en écho à ce que Madame Keller disait, c'est que évidemment l'Union européenne comme entité concrète politique n'est jamais que l'addition de la bonne et de la mauvaise volonté de ses membres, et que en l'occurrence sur la question de la gestion migratoire et en particulier des flux migratoires en Méditerranée, on sait bien que de l'Espagne à l'Italie, à Malte, en passant par la France, l'addition des bonnes volontés donne un niveau extrêmement faible. Et que je me félicite d'avoir d'entendre des volontés de gérer cette question au niveau communautaire. Mais aujourd'hui, force est de constater que les accords multilatéraux, multipartites, entre Malte, l'Italie, la France, la Grèce, etc., connaissent échec sur échec.
Alors on reviendra sur ces accords et sur les différents projets pour coordonner une politique migratoire et d'asile en Europe. Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette espèce de bras de fer auquel on assiste entre les ONG et les autorités italiennes depuis le début de l'été. Alors je rappelle les faits. L'Ocean Viking, donc un bateau de SOS Méditerranée qui a pu débarquer le 7 juillet en Sicile, n'a jamais pu repartir. Il a été immobilisé car il comptait trop de passagers à son bord lors de son débarquement. C'est la raison évoquée par les autorités portuaires. Quelques semaines plus tôt, le Sea-Watch 3 était immobilisé lui aussi en Sicile pour des irrégularités administratives et notamment un nombre excessif de gilets de sauvetage à son bord. Patrick Chaumette, professeur de droit maritime, est-ce qu'on est devant des raisons légales et légitimes ou s'agit-il de simples prétextes ?
Non, on a un vrai problème depuis déjà un certain temps, qui est la fermeture des États côtiers. À la fois, Malte a des arguments juridiques à faire valoir parce que Malte n'a pas ratifié les amendements de 2002 de la convention SARS, Search and Rescue, qui organise les sauvetages, une convention de l'Organisation Maritime Internationale. L'Italie a eu un ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a voulu faire une politique sans aucun respect des conventions internationales que l'Italie avait ratifiées. À l'époque, il ne faut pas oublier que le port sûr le plus proche a été le port espagnol de Valence. La France a eu un courage d'hypocrisie absolument fantastique en n'accueillant aucun bateau. Aujourd'hui, on est en Italie devant une démarche un petit peu différente, moins politique et beaucoup plus administrative et hypocrite. Et il va bien falloir qu'un certain nombre de procédures juridictionnelles en Italie à la fois conduisent à la condamnation de Matteo Salvini pour excès de pouvoir et aujourd'hui arrêtent l'excès de zèle de l'administration italienne sur des prétextes complètement abusif, quoi. Mais c'est un problème fondamental de fermeture des États côtiers en première ligne qu'on ne peut pas, je suis d'accord, laisser isoler ensuite. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'accueil aujourd'hui.
Et quand un État comme l'Italie refuse l'accès d'un bateau chargé de migrants naufragés à ses ports, il oppose sa loi migratoire finalement au droit maritime. Qu'est-ce qui doit primer ?
Alors, il oppose d'une part des décisions administratives italiennes qu'il faut contester et certaines ont été contestées en Italie et jamais Matteo Salvini n'a gagné un seul procès en Italie quand même, faut le dire. L'Italie ensuite ne respecte pas le droit européen et les procédures prévues par la convention de Schengen, le code Schengen, la possibilité d'un traitement individuel des dossiers et la possibilité de demande d'asile, bon, ça commence à faire beaucoup quand même juridiquement. Politiquement, bon, après, comment forcer un peu l'Italie? Ben, par de la solidarité, d'accueil des autres États du Nord.
Camille Schmoll, vous êtes géographe spécialiste des migrations dans l'espace euro-méditerranéen, je le rappelle. Pourquoi semble-t-il si compliqué pour les États européens et les ONG d'organiser ensemble, main dans la main, le sauvetage des migrants en Méditerranée ?
Alors, moi, je voulais revenir avant sur une ou deux choses qui ont été dites. Hein. Vous parliez en début d'émission du fait que le nombre des arrivées a littéralement bondi, arrivant à 25 000 passagers arrivés sur les côtes de l'Europe du Sud. Si on compare à l'année 2019, effectivement, le nombre a augmenté puisqu'on était à 14 000 arrivées dans le canal de Sicile. Mais en réalité, c'est un nombre bien faible par rapport à ce qu'on a, à quoi on a assisté dans les années précédentes. Hein. Rappelez-vous, en 2011, avec la révolution de Jasmin en Tunisie, on avait plus de 60 000 arrivées dans le canal de Sicile. Et puis en 2015, avec la crise syrienne, on a eu plus d'un million d'arrivées. Ensuite, plusieurs centaines de milliers dans les deux années qui ont suivi. Donc en réalité, il n'y a pas du tout de rebond absolument important, de reprise importante des départs. Par contre, il est intéressant de se poser la question des causes de ces nouveaux départs, parce que visiblement, ça change, notamment si on va voir les nationalités des nouveaux arrivants. Hein. Et on a beaucoup de gens qui arrivent de Tunisie là, ces derniers jours, hein, ces dernières semaines. Hein. Donc ça, c'est intéressant à observer. C'est probablement lié à la crise économique très forte que traverse la Tunisie, du fait, pour le coup, de la crise sanitaire, avec, vous savez, l'effondrement du tourisme. Donc ça, c'est véritablement à observer dans les prochains jours. Mais ceci dit, dans les faits, les chiffres sont quand même relativement bas par rapport à ce qu'on a vécu dans les dernières années. Et par contre, ce qu'on observe dans les deux, trois dernières années, c'est une augmentation du taux de mortalité dans les traversées, très importante, hein, puisqu'on est passé de 2% à 8% cette année. Donc en fait, sur le total des personnes qui traversent, le nombre de personnes qui meurent en mer est beaucoup plus élevé, et c'est ça qu'il faut se demander. Pourquoi ? Et c'est lié, bien entendu, en partie au fait que les ONG aient déserté la Méditerranée, mais pas seulement. Et puis ensuite, l'autre problème, ce sont les refoulements, les renvois vers la Libye. Et c'est là qu'on arrive à une des causes les plus importantes de la crise qu'on connaît, de la crise humanitaire, j'entends, qu'on connaît depuis quelques années, ce sont les accords avec la Libye. Et là, je voudrais revenir sur ce qui a été dit au sujet de Matteo Salvini. Matteo Salvini est très fort parce que il fait la polémique, il attire les projecteurs sur lui, c'est un très bon communicant, et du coup, il est presque en train de dicter, en fait, notre perception de la réalité migratoire. C'est lui, aujourd'hui, qui parle de crise à Lampedusa aussi, et c'est pour cette raison qu'on a l'impression d'être face à une crise en partie, hein. Mais il faut se rappeler que la politique de coopération avec la Libye, elle ne date pas de Matteo Salvini, mais du gouvernement précédent, du gouvernement Renzi, hein, et que elle a été renouvelée par le gouvernement actuel italien. Par ailleurs, il me semble pas qu'on ait, des prises de position très fermes du côté de l'Union européenne vis-à-vis de cette politique, hein, qui s'appuie, je le rappelle, hein, sur les gardes-côtes libyens, sur l'armée libyenne aussi, et qui mène à ce que Michael Neyman a parlé au début, hein, c'est-à-dire une prise en charge extrêmement inquiétante, hein, quand ce n'est pas la mise à mort, tout bonnement, des migrants qui reviennent, justement, qui reviennent en Libye. Hein. Donc, je pense que c'est sur ce point-là qu'il faudrait revenir, hein, la façon dont, en fait, on a géré la coopération avec les pays tiers et en particulier avec la Libye, pour se débarrasser de la question migratoire. Donc, ce qui amène à voir les choses un petit peu en amont, avant les traversées de la Méditerranée, qui sont aujourd'hui, qui sont les personnes avec qui nous coopérons, qui sont les États avec lesquels nous coopérons, qu'est-ce qu'on leur donne en échange de cette coopération sur les questions migratoires, et qu'est-ce qu'on perd, nous, en termes de souveraineté? Il me semble que c'est des questions importantes pour l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, juste pour terminer, on peut dire que la Méditerranée, finalement, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une zone de conflit entre deux visions, à la fois morale, idéologique, hein, une vision qui tenterait à construire, en fait, la migration comme une urgence, et à ne voir, en fait, que la collaboration avec les pays tiers comme finalement solution à l'urgence migratoire, et une autre vision qui serait plutôt du côté de la prise en charge, de la solidarité, vers laquelle on espère tous que les États européens iront en septembre et dans les prochaines années.
Qui doit sauver les migrants en Méditerranée? C'est la question qui nous occupe dans le temps du débat jusqu'à 19h. Dans une petite minute, on va justement s'interroger sur les politiques de l'Union européenne et le fameux pacte pour la migration qui devrait commencer à être discuté au mois de septembre. Ça, ce sera juste après cette chanson qui relie les rives nord et sud de la Méditerranée. Une fois n'est pas coutume, c'est Rachida Aïta sur France Culture.
France Culture, le temps du débat d'été, Camille Diao.
<t'-> شفت البلدان العامرين مشيت مشيت ما نوليش عتى الناس عتى الناس عتى الناس هربوا منا عتى الناس عتى الناس عتى الناس ذو الغربة
Rachida sur France Culture et nous répondons à la question, enfin nous débattons autour de la question qui doit sauver les migrants en Méditerranée jusqu'à 19h avec nos quatre invités. La géographe spécialiste des migrations Camille Schmoll, Patrick Chaumette, professeur émérite de droit maritime, Michael Neumann, représentant de Médecins Sans Frontières et Fabienne Keller, députée européenne. Fabienne Keller, Camille Schmoll à l'instant déplorait l'externalisation des contrôles et de la question migratoire de la part de l'Union européenne qui préfère déléguer en quelque sorte cette question à ses voisins turcs, libyens. Est-ce que le pacte européen sur les migrations doit se débarrasser de cette stratégie ?
Ce sera l'un des enjeux majeurs, c'est-à-dire que l'on prenne en main cette politique migratoire au niveau européen de manière volontaire. C'est donc, vous l'avez rappelé, le sujet du nouveau pacte asile-migration qui devait être présenté déjà il y a plusieurs mois, qui a été repoussé pour cause à la fois de Covid puis de plan de relance à la rentrée. Faut avoir conscience, évidemment, c'est un sujet difficile pour tout le monde, que l'histoire migratoire des différents États membres n'est pas du tout la même. Il y a d'ailleurs des pays qui n'ont pas connu de migration du tout dans leur histoire, même sur plusieurs siècles. C'est le cas notamment des pays d'Europe centrale. Donc ça doit passer par un dialogue assez approfondi. Mais la migration est un sujet tellement important et la situation est plutôt relativement calme aujourd'hui. On évoquait les chiffres, on n'est pas du tout dans la même situation qu'au moment du pic migratoire de 2015-2016, alors que les instabilités mondiales, la tension entre la Russie, les États-Unis, l'émergence de la Turquie comme un acteur majeur, doivent encourager l'Union européenne à se doter d'une politique forte à l'échelle européenne, mais également d'arriver à coordonner, à harmoniser les modes de fonctionnement entre les États membres. Et ça va être tout le défi du débat qui, évidemment, sera tout de suite pris en main par les populistes. Donc il faudra essayer par le dialogue et l'explication de contrer les paroles faciles, les critiques de personnages comme Matteo Salvini ou comme le Premier ministre hongrois, Monsieur Orban, qui est assez rapide sur ces sujets, et au contraire d'évoquer les enjeux de migration dans le monde, dont en fait les catastrophes en Méditerranée sont un des révélateurs, mais la migration plus globalement est un sujet qu'il faut prendre en main à l'échelle européenne. Nous avons un espace de libre circulation qui est l'espace Schengen. La politique d'asile et migration, c'est la relation avec les États membres qui nous entourent, et par exemple la situation dramatique au Liban peut faire penser qu'il y aura un mouvement qui serait assez naturel. Il y a beaucoup de liens entre l'Europe et le Liban. Le Liban accueille 1,5 million de migrants essentiellement venus de Syrie à la suite des guerres. Nous avons un devoir de solidarité, donc il faut nous organiser pour cela. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, les expériences de solidarité sur base volontaire ont été limitées et difficiles. Donc ça passe par une prise de conscience qui, je crois, progresse, mais par beaucoup d'énergie et de volontarisme. En tout cas, la nouvelle commission a marqué ce pacte asile-migration comme une priorité, Madame von der Leyen. Ce sera la base de ses propositions. Et les principaux groupes du Parlement européen, les Verts, le PPE, les socialistes et mon groupe, le groupe Renew, souhaitent avancer fortement sur ce sujet et nous y travaillons depuis un an. Donc j'espère que nous arriverons, avec le volontarisme de chacun, à un pacte qui traitera les différents aspects que nous venons d'évoquer, parmi lesquels un est particulièrement difficile, c'est cette question de la relation avec la Libye, qui est un État failli, c'est un État qui ne où on n'a pas d'interlocuteur aujourd'hui, alors qu'avec d'autres États d'origine, on peut espérer avoir un dialogue plus construit et une stratégie développée ensemble.
Michael Neumann de Médecins Sans Frontières, Fabienne Keller évoquait les relations entre l'Europe et la Libye sur la gestion de cette question migratoire. Alors, on rappelle qu'un accord de coopération entre l'Italie et la Libye a été signé à deux reprises, que les gardes-côtes libyens sont désormais en charge de récupérer les embarcations et de ramener les migrants à leur bord en Libye. Qu'est-ce que vous attendez de la part de l'Union européenne quant à sa relation avec la Libye? Est-ce qu'il faut complètement faire sortir les gardes-côtes libyens et les autorités libyennes de cette problématique migratoire ou coopérer autrement?
Je pense que les migrants qui ne souhaitent pas rester en Libye doivent se voir donner la possibilité de quitter le pays. Pays dans lequel les conditions de vie qui règne pour eux sont absolument terrifiantes, que ce soit dans les centres de détention, que ce soit dans les centres urbains. On parlait tout à l'heure de la pression du Covid et de la relation avec l'évolution du nombre de départs. Ce que le Covid a signifié pour la Libye et pour les migrants résidents en Libye, c'est la suspension totale des autres dispositifs de sortie et d'évacuation, que ce soit vers les pays d'origine des gens ou des dispositifs de relocalisation qui concernaient un petit nombre de gens, mais qui malgré tout a permis d'envoyer des gens au Niger, y compris au Rwanda, en attendant une éventuelle relocalisation dans un autre pays d'Europe ou d'ailleurs. Ces perspectives aujourd'hui n'existent plus. Donc il est important de remettre ces dispositifs en marche, de faire en sorte que ces gens puissent trouver la sécurité et la protection ailleurs. Et ensuite, effectivement, s'assurer que ce marchandage cynique et hypocrite qui met les gardes-côtes libyens en première ligne du sauvetage, eh bien, il lui soit mis un terme. La France, l'année dernière, avait promis de céder 6 bateaux aux gardes-côtes libyens pour contribuer à l'interception et au sauvetage en mer. Un certain nombre d'ONG, dont Amnesty International et MSF, avons demandé à la justice de mettre fin à cette session, et la France a finalement refusé. Mais on voit que c'est pas seulement l'Italie qui gère, qui souhaite donner ce rôle-là à la Libye, mais c'est bien l'ensemble des pays du littoral. Et on voit bien que tant que la Libye sera dans l'état dans lequel elle est, encourager cette politique est profondément scandaleux.
Alors, qu'est-ce que vous attendez du pacte pour la migration? Qu'est-ce qui serait souhaitable? Qu'est-ce que l'Europe doit mettre en place selon Médecins Sans Frontières?
Il y a plusieurs choses. Il y a des choses, je dirais, des mesures d'urgence immédiates, des choses qu'on demande depuis longtemps et dont il a déjà été question un petit peu plus tôt, la remise en place, par exemple, d'un dispositif de sauvetage européen. Faire en sorte que les sauvetages ne soient pas l'apanage des navires commerciaux ou des ONG, mais qu'effectivement les gens puissent espérer être secourus et ramenés dans un port sûr. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ce dispositif aujourd'hui doit absolument exister. Il n'y a aucune raison que ce soit des initiatives citoyennes qui toutes seules occupent ce terrain. Et puis, la question fondamentale, c'est celle de la gestion raisonnée, réfléchie des relations avec les pays d'origine. Et de la question migratoire, je fais aucun procès d'intention aux pays européens. Enfin, mon force est de constater que depuis des années, ces discussions achoppent systématiquement sur les égoïsmes nationaux. On peut parler de la Hongrie, c'est facile. Mais aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de réfugiés, de demandeurs d'asile qui résident dans des conditions insalubres, absolument terrifiantes, dans les îles grecques. J'ai pas entendu que tellement de personnes aient été relocalisées en France, en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Je pense que c'est bien ce dispositif fondamental de solidarité communautaire qui fait défaut. Alors tant mieux si le pacte peut permettre de trouver des solutions, mais aujourd'hui on n'y est pas. L'état d'esprit des États européens dans l'ensemble me laisse, je dirais, sceptique.
Patrick Chaumette, quel type de mécanisme juridique, qu'est-ce qu'on pourrait inscrire dans le droit européen pour mieux organiser le sauvetage et l'accueil des migrants qui traversent la Méditerranée? Patrick Chaumette?
Patrick Chaumette n'est plus avec nous. Je me tourne vers vous, Camille Schmoll, géographe. Qu'est-ce que vous attendez d'une politique européenne sur la migration? Et est-ce que vous en attendez beaucoup de choses, hein, puisque, comme on l'a évoqué, les pays comme la Hongrie et la Pologne sont très réticents à des mécanismes de solidarité. Vous êtes sceptique, comme Michael Neumann?
Oui, malheureusement, l'histoire de ces dernières années nous amène à être sceptiques parce que quand les États européens essayent de s'organiser sur un modèle de solidarité dans la prise en charge, hein, de partage des responsabilités, force est de constater que cela mène systématiquement à un échec, et l'échec le plus important ayant été celui du plan de répartition, hein, qui avait été négocié suite à la crise de 2015 et qui malheureusement a été très 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 faiblement appliqué. Donc on peut effectivement douter. On peut aussi voir que à chaque fois qu'il y a eu ces derniers mois et ces deux dernières années un navire bloqué, que ce soit dans les ports italiens ou que ce soit au large de Malte, il y a eu des négociations qui ont été faites au niveau européen. Donc finalement on est sur une forme de négociation au cas par cas, au compte-gouttes. Alors c'est assez étonnant finalement parce que les gens sont relocalisés vraiment au cas par cas. Donc est-ce que c'est pour une question de visibilité que les États européens refusent d'avoir un mécanisme, disons, plus systématique? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait pouvoir mettre en place effectivement ce mécanisme systématique. Pour le moment, ce n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout le cas. Donc il y a cette question-là qui est bien entendu liée aussi à la question du règlement de Dublin 3. Qui demande à ce que les premiers pays d'entrée prennent en charge en fait les demandeurs d'asile arrivés à leurs frontières. Donc ça, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait aussi rediscuter, hein, soit via un plan de répartition, soit via d'autres mécanismes. Et par ailleurs, il y a aussi la question des canaux de migration et des visas humanitaires, hein, qui aujourd'hui est vraiment problématique. Aujourd'hui, quand on vient d'un pays en guerre civile, quand on vient d'un pays où on risque sa vie, il est extrêmement difficile, hein, de pouvoir venir en Europe via des voies sûres. Et c'est la raison pour laquelle aussi les personnes empruntent la route de la Méditerranée, la route du Sahel, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faudrait pouvoir discuter de façon plus sereine.
Michael Neumann de Médecins Sans Frontières, je vous laisse réagir rapidement. On arrive en fin d'émission.
Oui, en septembre 2019, un certain nombre d'États européens, et en particulier Malte, l'Italie, l'Allemagne et la France, se sont réunis à La Valette, à Malte, pour définir un contrat de partage des personnes secourues par les navires.
L'accord de Malte.
L'accord de Malte. L'idée était de faire en sorte que, enfin, les errements des bateaux de sauvetage ne durent pas une semaine, 10 jours, comme c'était le cas les mois qui avaient précédé. Et puis ça marchait un tout petit peu. Et puis finalement, à premier obstacle, le dispositif explose. Aujourd'hui, Malte accueille les personnes secourues à bord de cargos de ferries de tourisme le long des côtes maltaises, en quarantaine à cause du Covid, pour des durées qui excèdent 5 semaines. C'est absurde. Donc tout est mis en place de nouveau pour finalement dissuader, ralentir, avec un résultat qui est celui du nombre de morts dont on parlait, celui des intercessions sur les côtes libyennes dont on parlait, et une image de l'Europe qui est assez misérable.
Fabienne Keller, députée européenne, vous souhaitiez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, peut-être quelques éléments porteurs d'espoir, je l'espère. En tout cas, c'est mon engagement, c'est pour ça que je me suis engagée sur ce sujet de la migration, c'est pour essayer de construire une solution européenne sur la base du principe de la construction européenne, hein, qui est la solidarité, mais aussi de quelque chose d'assez pragmatique, qui est cette politique d'asile et de migration, si elle ne se réforme pas et si elle ne trouve pas une solution au défi très important que nous venons de décrire, c'est toute la zone Schengen, hein, qui serait remise en cause, et les principes de libre circulation. Et cette prise de conscience, elle est forte, hein, au niveau européen. Quelques réponses concrètes. Souhaitons-nous un dispositif européen de sauvetage en mer? La réponse est oui. Et un consensus est en train de se construire dans le cœur, hein, dans les principaux partis politiques composant la majorité au Parlement européen, pour soutenir cette idée que l'Europe doit agir en direct Et ça, c'est un engagement important. À la question de l'accord de Malte, qui, c'est vrai, a été un petit peu décevant puisqu'il était sur base volontaire, il a néanmoins fonctionné. C'est une première expérience à laquelle on peut rajouter le mécanisme en cours de répartition des mineurs non accompagnés qui sont sur les îles grecques. Cet accord porte sur 1800 mineurs, donc de moins de 18 ans, essentiellement des garçons, qu'il s'agit de répartir dans plus d'une dizaine d'États membres. C'est en cours, ça a été ralenti par le Covid, mais la commissaire européenne, qui est suédoise, qui avait elle-même en charge les mineurs quand elle était ministre de l'Intérieur, est très déterminée sur ce sujet. Et sur la question de la solidarité, bien sûr, ce sera le point très très difficile, hein, mais cela veut dire que on change de mécanisme, on fixe pas comme en 2015 des quotas impératifs, mais on trouve des mécanismes complémentaires à construire, à inventer, notamment pour les pays qui ne souhaitent pas s'engager à prendre en charge des personnes. Mais il faut avoir conscience que de toute façon, les migrants ne souhaitent pas aller en Hongrie ou en Pologne, hein, aujourd'hui. Leurs chiffres sont extrêmement, incroyablement faibles, hein, en termes de demande d'asile. Donc la question, c'est, est-ce que une grande majorité des États membres peut se mettre d'accord sur un dispositif, ce qui signifie aussi que les États de premier accueil, les États qui ont des côtes importantes, hein, Malte, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la France sont épaulés probablement par l'organisation de lieux d'accueil décents pour que quand on accueille les demandeurs d'asile, les migrants, il y ait un accueil où on discerne entre ceux qui, de manière manifeste, ont de bonnes chances de recevoir le statut de réfugié et ceux qui, de toute évidence, ne doivent pas rester.
Et
on,
voici.
On évoquait le
je suis obligée de vous interrompre. Excusez-moi, Fabienne Keller. Malheureusement, notre temps est imparti. Je dois vous interrompre. En tout cas, vous venez de donner quelques-unes des grandes pistes qui seront sur le sujet sur la table de l'Europe à partir du mois de septembre, hein, dans le cadre des discussions sur ce futur pacte pour la migration. Merci à tous d'être venus participer à ce temps du débat. Patrick Chaumette, Fabienne Keller, Camille Schmoll, Michael Neumann, quatre invités qui, chacun à leur manière, appellent de leur vœu une politique coordonnée et ambitieuse pour mieux porter secours et pour mieux accueillir ceux qui se lancent dans la périlleuse traversée de la Méditerranée. Merci à l'équipe du Temps du débat d'été pour la préparation de cette émission. Sophie Alavi, Nicolas Berling, Mathilde Tonfourcade, Audrey Dugas, Alexandra Delbo. Ce soir, à la technique, Édouard Rubinstein et à la réalisation, toujours Émilie Valla. Demain, dans les matins d'été de Chloé Cambrelin, il sera question de la Biélorussie. Jusqu'où peut aller la contestation? Et quant à nous, demain soir, nous partirons en Allemagne, dans la ville de Koblenz, où se déroule actuellement le premier procès sur les exactions commises par le régime syrien. À quoi sert encore la justice internationale? C'est la question que nous nous poserons. À demain, donc 18h15, et d'ici là, très belle soirée sur France Culture.